Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez aussi écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Christelle Fermont. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes directrice du syndicat mixte de la rivière Drôme.
Oui, c'est ça.
Ensuite, nous avons Olivier Bielakoff. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes technicien rivière.
Oui,
tout à fait. Au sein du SMRD.
Du SMRD, tout à fait.
Nous avons ensuite Nathalie Guénaud. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes conseillère municipale de la ville de Die et vous avez ensuite une représentation sur quelle partie ?
Déléguée à la participation citoyenne et aux transitions. Donc c'est tout ce qui est porteur de projets en fait pour la ville de Die. Tous les citoyens qui ont des projets et qui veulent les rendre publics, et bien leur permettre de pouvoir s'exprimer. Et notamment sur la rivière Drôme, il y a eu une réaction très forte du fait de ce qui s'était passé. Et donc, du coup, on a voulu que ce soit clarifié et que tout le monde puisse être présent à cette réunion.
Cette réunion qui est annoncée pour le 3 septembre, ça sera un jeudi.
C'est un jeudi.
À partir de 18h et ça se passera à la salle polyvalente. Deux grands thèmes seront abordés sur cette réunion publique. Au vu de ce qui s'est produit, c'était nécessaire d'établir cette réunion. Donc une qui concerne la confluence de la Mérance et de la Drôme, et l'autre, cette restructuration de la rivière Drôme au niveau du pont rompu.
Moi, juste une petite précision, excusez-moi. Juste, il y a la moitié de la réunion qui se fait à la salle polyvalente pendant une heure, et après c'est une heure sur site. Mais on voulait que ce soit un peu enfermé en lieu où ce qui soit accessible, pour que les gens puissent quand même participer à cette réunion, ceux qui ne pouvaient pas aller sur site, puisque voilà, c'est plus escarpé et un peu plus loin. Donc il y a deux parties dans cette réunion.
Alors on revient sur ces deux sujets, mais avant tout, on va peut-être parler de l'actualité du SMRD. Qu'est-ce qui s'est produit actuellement ?
Ben, du coup, oui, c'est le syndicat qui porte ces deux opérations. Le syndicat mixte de la rivière Drôme porte la gestion des milieux aquatiques et la prévention contre les inondations. Donc aujourd'hui, les grands chantiers en cours, à part cela, c'est le travail, une étude qu'on a lancée sur la caractérisation des digues. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on avance sur ce dossier, puisqu'il n'y a pas de digues autorisées sur la vallée. Donc la première chose qu'on a à faire au syndicat avant de pouvoir gérer ces digues et s'en occuper, c'est de les autoriser auprès de l'État. Donc on a démarré une étude avec une entreprise qui commence déjà à faire du terrain sur toutes les digues de la vallée de la Drôme. Et je dirais la deuxième grande actualité, c'est quand même la sécheresse. On a eu depuis fin juillet un ASEC sur Livron-Loriol, qui s'était calmé quelques jours avec les pluies qu'on a eues il y a une dizaine de jours, là. Et là, on est reparti sur un ASEC qui se réinstalle sur Livron-Loriol. Donc une année vraiment très sèche où on remercie tous ceux qui peuvent économiser de l'eau à tous les niveaux, que ce soit au niveau agricole, mais aussi au niveau des particuliers, parce que la situation est très, très, très tendue cette année.
C'était il y a 2 ans, vous me parliez, ou je ne sais pas si c'était vous ou quelqu'un d'autre qui était venu du SMRD pour me dire que les nappes phréatiques actuellement, à ce moment-là, étaient pleines.
Oui.
Et c'est le cas encore aujourd'hui ou elles ont baissé ?
Les nappes, chez nous, elles sont très très liées à la rivière. Donc dès que la rivière baisse, les nappes baissent aussi. Donc là, en ce moment, elles ne sont pas très 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 remplies. Et les plus grosses nappes qu'on ait liées à la Drôme, c'est plutôt sur Alex et Livron-Loriol. Après, sur le Diwa, on a quand même beaucoup moins de nappes liées à la rivière Drôme.
Je me tourne vers Olivier Bialakoff. Je voulais savoir, il existe une politique actuellement qui se met en place sur la démolition des retenues d'eau telles que les digues ou des moulins qui ont été décrétés par l'Europe. En France, il y a pas mal de sujets de discorde à ce propos. Et en fait, ça serait de remettre en cause une culture ancestrale de cette technique de retenue d'eau pour un écoulement plus rapide vers l'océan et avec quelques désagréments qui s'accompagnent hein, pour des élevages ou des agriculteurs aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette norme européenne ?
La norme européenne en tant que telle, je ne m'aventurerai pas sur le détail des textes sur le sujet, mais plus sur... je préfère vous faire un retour de terrain et plus d'observations, peut-être empiriques, mais avec l'histoire de l'homme et de son empreinte sur son environnement. Donc voilà, l'homme a des besoins en eau, se sert dans le milieu... Et ce qui était bon à une certaine époque ou ce qu'on pensait être bon aujourd'hui, on le voit autrement, d'où l'évolution aussi des textes réglementaires. Et cette eau, il faut envisager les milieux aquatiques comme des milieux vivants, des milieux qui nettoient l'eau. On parle d'auto-épuration, de cours d'eau, d'où l'importance de cours d'eau en bon état et de zones humides en bon état. Maintenant, on a des besoins en tant qu'espèce. Et ça ne me choque pas du tout de qu'on puisse prélever de l'eau, qu'on puisse avoir différents usages autour de cette ressource. Mais il ne faut pas oublier qu'un barrage, c'est par exemple un obstacle à l'écoulement des sédiments. C'est un obstacle infranchissable pour des espèces qui ont besoin de remonter les cours d'eau pour frayer. Et on essaye d'intégrer tout ça. Donc l'idée, c'est d'avoir de dézoomer, d'avoir un regard objectif sur ces questions-là en maîtrisant un petit peu nos marges de manœuvre. Voilà, donc détruire des ouvrages qui ont une histoire aussi, mais qui n'ont plus d'usage, moi, en tant que technicien de rivière, ça ne me choque pas. Mais encore une fois, ça veut dire qu'il faut que les usagers potentiels ou... toutes les personnes intéressées puissent avoir été effectivement informées ou comprendre en tout cas cette politique-là, qui est européenne et traduite dans le droit français par la loi sur l'eau.
Nathalie Guénaud, conseillère municipale, donc, et puis aussi porte-parole de la population de Die, quelque part, dans cette démarche.
Porte-parole, j'espère. En tout cas, moi, ce que je veux, c'est que ce soit transparent. C'est-à-dire que le travail du SMRD, je pense qu'il n'est pas assez mis en valeur. On ne sait pas exactement, la population ne connaît pas. On a beau essayer de... Et le rôle de la mairie, pour moi, c'est vraiment... Ben voilà, comment on peut faire que tous les citoyens puissent avoir accès à cette information, sachent à quoi sert le SMRD, pourquoi il est mandaté, qui l'a mandaté. Du coup, donner légitimité, parce que la population, ce qu'elle souhaite, c'est vraiment comprendre pourquoi... ben voilà, ce qui s'est passé au Pont Rompu, hein, ça a été une des expériences. Mais voilà, et je pense que si on peut avoir un rôle dans une mairie et qu'il soit porteur, c'est... faire en sorte que la population puisse avoir accès à toutes les informations. Et pour moi, c'est ces informations qui, quand même, la rivière, c'est le centre, elle fait vraiment partie du centre de la ville de Die. Eh bien, moi, je veux qu'elle soit, que la position qu'on a, que nous, on travaille en tant que mairie avec le SMRD, et que c'est pour le bien de tous. Et c'est un bien commun qui doit être protégé. Et il y a des gens qui sont formés pour ça, et bien écoutons-les et travaillons avec eux.
Donc cette réunion s'est organisée autour de cette idée. On passera aussi sur la confluence de la rivière de la Méros et de la Drôme. Quelle problématique peut-on y trouver à l'heure actuelle ?
Eh ben, c'est exactement le sujet qu'on évoquait à l'instant. C'est un problème de seuil, en fait, au niveau de cette confluence entre la Méros et la Drôme. Vous avez deux seuils successifs. Donc, c'est le passage à gué qui traverse au niveau de la Griotte. Et derrière, le pont de la SNCF, là, qui sont deux ouvrages qui pose souci pour la circulation des poissons et des graviers. Donc ce que propose le SMRD, c'est de faire des travaux. Donc on a fait une étude pour voir qu'est-ce que l'on pouvait faire à ces deux endroits-là. Et aujourd'hui, on va rentrer dans la phase travaux, donc de reprise de ces deux seuils pour les rabaisser, voire les retirer complètement. Mais par contre, on travaille vraiment en lien avec la mairie parce que même s'il n'y a pas d'usage aujourd'hui de prise d'eau, il y a un usage piéton très très fort. Donc avec une circulation piétonne, c'est un chemin de passage des Diois qui est superbe hein, en bord de Drôme. Et donc on travaille avec la mairie qui, elle, va réinstaller derrière une passerelle qui sera financée dans le même projet par l'Agence de l'eau.
Nathalie Guénaud, donc ce projet de chemin restauré consistera en quoi ?
Alors nous, on n'a pas commencé à travailler. Hein. On est depuis 2 mois en mairie quand même, donc on n'a pas d'idée en préconçue. Je pense que ça sera justement tout ce travail en commun et avec la population qui fera qu'on arrivera à quelque chose. Après, ce qu'il ne faut pas oublier sur ce chemin de la Griotte, c'est que c'est un chemin privé par endroit, rural par d'autres et communal au bout. Je pense que c'est dans cet ordre-là, mais je ne suis pas sûre de moi. Donc tout ça fait que c'est des réglementations différentes. Donc c'est comment on fait, voilà, qu'est-ce qu'on va construire pour que ça soit quelque chose de cohérent, agréable et que tout le monde puisse avoir sa place sur ce chemin. Tout le monde, je ne sais pas si ça va être possible parce que notamment avec la passerelle au niveau des chevaux, je sais que c'est déjà interdit un peu plus loin. Enfin, voilà, mais comment on va travailler ? Ça va prendre, je pense, plusieurs années d'arriver à avoir une continuité piétonne et que ce soit abordable pour tout le monde.
D'ailleurs, à l'heure actuelle, le pont qui existe a été construit il y a quelques années, puisque l'ancien avait été emporté par une crue. Donc, cela signifie bien que la rivière n'a pas toute sa capacité d'évacuation ou...
Ah ben oui, la Méros, c'est un cours d'eau qui est assez torrentiel, hein, donc elle peut avoir des crues assez importantes à cet endroit-là, oui. Donc il faut prévoir un ouvrage qui soit assez résistant à la crue. Ce que pensait le bureau d'études, c'est peut-être une passerelle qui s'ouvrirait et qui laisserait passer la crue et qu'on pourrait raccrocher ensuite une fois la crue passée. Donc voilà, il y a des idées qui sont sorties comme ça. Et maintenant, c'est le bureau d'études qui fera les travaux, qui nous fera des propositions très bientôt.
Nous revenons maintenant sur le pont rompu. Donc, au printemps, des personnes se sont retrouvées à voir des bulldozers agir sur les rives sur les berges de la Drôme, hein, et donc étaient presque choquées de voir l'état de cet espace qui est très visité et très utilisé par les Diois. Et ces travaux n'ont pas été annoncés. Ça, c'est peut-être le plus gros problème. C'est pour ça que Nathalie Guénaud, vous tenez à ce que les informations soient accessibles au public. On peut expliquer pourquoi cette intervention du SMRD sur cet espace du pont rompu ?
Oui, donc en fait, effectivement, cette reconnaissance qui a été faite début mars sur le manque d'informations par rapport à ce projet. Il faut savoir que ce projet est envisagé à l'échelle de l'ensemble de la rivière Drôme sur à la fois une logique de sécurisation de certains sites et à la fois dans une dimension avec un objectif environnemental. Donc, je m'explique. L'aspect sécurisation, c'est que on a des cours d'eau qui ont été contraints. Ça revient un petit peu au sujet qu'on évoquait au début de notre échange. On est venu s'installer. Il y a une digue, il y a une voie ferrée, il y a des habitations. Et il faut savoir que nos cours d'eau sont des cours d'eau qui ont une forte charge sédimentaire. Alors, elle était plus forte avant, elle l'est un peu moins maintenant. En tout cas, ça, c'est très très bien pour la rivière. Mais il se trouve que ces sédiments, au gré de leur déplacement dans la pente du cours d'eau, vont se déposer. Et si on n'a pas une crue conséquente qui vient les reprendre en charge, on va avoir une installation végétale. Et ces végétaux vont fixer le sédiment. Et le phénomène va s'amplifier parce que les végétaux vont créer un frein à l'écoulement et la petite crue ou la crue moyenne d'après va voir son écoulement freiné en fond et on va avoir un engraissement, on appelle ça comme ça, on va avoir une zone où les sédiments se posent de plus en plus. Donc du coup, on a une fermeture de la rivière à la fois par l'accumulation de sédiments et la végétalisation, qui devient très très importante, cette végétalisation, si on ne fait rien. Donc ce n'est pas un problème dans des zones qui sont sauvages, et d'ailleurs on n'intervient pas dans ces zones-là. Par contre, ça devient problématique pour nos ouvrages et nos structures en termes de sécurité. Donc ça, c'était le premier point sur la sécurité. Et l'autre point, c'est qu'on a eu, dans l'histoire de l'évolution de la rivière, qui est toujours c'est très dynamique, mais par contre, on ne le voit pas toujours. Donc ça, c'est difficile de parler de ça, parce qu'on pense que la rivière a toujours été là et qu'elle a toujours été comme ça. Et il se trouve que l'activité humaine, et notamment les carrières, les extractions de granulats, ont généré des incisions de la Drôme, on va dire, de manière généralisée. Débroussailler et décompacter ces sédiments, c'est permettre à la rivière en crue, donc en gros entre l'automne et le printemps en général, de remobiliser ces sédiments et de les faire partir vers des zones qui sont déficitaires en sédiments. Donc où on voit la roche en fait, hein, qui est nue, et donc on a un milieu qui est très pauvre. Et retrouver ce matelas de sédiments, c'est retrouver des habitats très diversifiés, c'est pour des espèces qui vivent au fond de l'eau et qui participent à la vie de la rivière et aussi à la qualité de la ressource en eau. Donc en fait, on a ces deux objectifs à atteindre, que sont la sécurité et le bon état de la rivière. Mais là, pour le coup, sur le pont rompu, c'est plutôt pour l'aval de Die qu'on va refournir du sédiment, parce qu'on l'aura rendu disponible. Et comme on est dans une zone de dépôt, le sédiment de l'amont reviendra au même endroit. Donc en fait, il faut imaginer qu'il faudrait une intervention relativement régulière, à un pas de temps qui pourrait être 10, 15 ans, le temps que les végétaux reviennent et que ça redevienne problématique. Mais on a bien conscience de l'importance du lieu pour la population locale et de la... quelque part de la brutalité, on va dire, de la vision non connue, non à l'avance, d'un bulldozer ou d'une pelle mécanique qui arrive sur site, notamment ce site-là. Mais on a fait ça dans la réserve des Ramières, dans des milieux où on a des contraintes réglementaires beaucoup plus fortes, et ça s'est très bien passé. Parce qu'on n'avait pas les mêmes enjeux, en fait, tout simplement. Donc... voilà, on a eu ce petit loupé-là au mois de mars, avec aussi l'urgence des dossiers qu'il faut faire avancer, avec tout ça, on l'a reconnu, la discussion sur place le 5 mars s'est bien passée, c'était tendu évidemment, parce qu'il y a de l'enjeu, mais il y a eu un bel échange à ce moment-là, on a fait une remise en état de mémoire, c'était au mois de mai, pour évacuer... des éléments végétaux, minéraux, et puis remettre un petit peu le site en état en attente de futurs travaux.
Vous parlez donc de sécurisation de cette rivière. Quels sont les risques, justement, sur quel domaine ou sur quel type d'ouvrage ?
D'une manière générale, le risque encouru, c'est d'avoir un débordement, d'avoir des obstructions d'ouvrage, d'avoir des ruptures de digues, d'avoir... En fait, finalement, le risque est lié à la quantité d'eau, à la pente et aux forces en présence dans ces moments-là, quand il y a ces phénomènes-là. Donc, un entretien de la végétation est nécessaire, pas toujours, il faut cibler les endroits, il ne faut pas croire qu'il faut entretenir tous les cours d'eau, les cours d'eau peuvent être laissés à l'état sauvage et sont en très bon état avec du bois dans le lit, mais parce qu'il n'y a pas d'enjeu, de risque à proximité. D'autres secteurs, et notamment les traversées urbaines ou celles où on s'est rapproché de la rivière parce qu'on s'en est servi et puis parce qu'on avait besoin d'espaces aussi plats, et souvent les espaces plats en milieu de montagne sont près des rivières, on fait qu'on a laissé à la rivière très peu de place. Aujourd'hui, on paye ça. Donc il faudrait redonner de la place à la rivière pour investir le moins possible dans cette sécurisation et que la rivière puisse respirer. Donc en fait, les risques liés aux crues sont souvent des risques liés à un non-entretien de manière très sectorisée.
Depuis 10 ans, en étant à Dyle depuis 10 ans, j'ai remarqué sur ce bord de Drôme, au niveau du pont rompu, cette montée de sable aussi. Qu'est-ce que ça signifie? Et justement, est-ce que ça prouve bien que la rivière n'a plus sa force pour irriguer ce sable?
En amont du pont rompu, vous parlez sur la zone de travaux en projet. En fait, initialement, je pense qu'il y avait moins de sable, mais la végétation en présence sur les galets freine vraiment les écoulements, ce qui est tout à fait naturel. Et du coup, on a un dépôt de matériaux beaucoup plus fins parce qu'on a des vitesses beaucoup moins fortes. Voilà, si on a des vitesses fortes, on a des gros matériaux. Et si on a des vitesses faibles, on a des éléments très fins. Donc, ce phénomène-là, en milieu naturel sans enjeu, fait qu'on va avoir un sol qui se constitue, des espèces végétales beaucoup plus diversifiées qui arrivent, et parfois même une déconnexion du milieu aquatique. C'est-à-dire qu'on va retrouver des pins, du thym, des essences qu'on ne trouve pas à proximité des milieux aquatiques. On essaye de travailler là-dessus. Là, le sujet, c'est bien de redonner en fait ce que ferait naturellement une énorme crue. Elle ferait ce qu'on envisage de faire.
Christelle Fermont, oui.
Oui, je voulais compléter un petit peu par rapport à ces histoires de risques et de dégâts. Le SMRD, il travaille sur des plans de gestion de ce type-là avant c'était la CCD et la CCVD, depuis les années 90 à peu près, on a commencé à s'occuper d'entretien des berges. Donc le travail dans le lit et sur les atterrissements est plus récent, on va dire. C'est moins fréquent aussi, mais le travail sur les berges, il date depuis quand même plusieurs dizaines d'années. Et la dernière grosse crue qu'on a pu avoir sur le territoire, on peut citer celle de 2003. À cette époque-là, même si c'est déjà un peu ancien, il faut se rappeler qu'il y a eu un petit bilan qui a pu se faire, de dire que l'entretien des berges qu'on avait fait jusque-là a limité les dégâts lors de la crue de 2003. Ça, c'est un constat qui s'est fait en comparaison avec des crues similaires sur d'autres bassins versants. Donc on n'est pas à faire de l'entretien intensif des berges. On a un entretien qui est très limité et très doux quand même pour la végétation. Mais il a quand même un effet qu'on peut noter quand il y a des grosses, grosses crues. Et même si on en a moins en ce moment, on n'est pas à l'abri d'une crue violente sur notre territoire. Donc il faut quand même se présager un petit peu des dégâts.
Cette transformation de la confluence de la Méros avec la Drôme, donc ça serait de supprimer ces paliers, hein. Il y en a deux successifs.
Oui.
Ça permettrait à quelle faune et quelle flore de se développer en pratiquant cette transformation?
Déjà, vous avez les sédiments qui du coup vont pouvoir circuler à nouveau. Et au niveau de la faune, c'est toutes les espèces de poissons qui vont pouvoir remonter et frayer plus haut. Après, peut-être Olivier a plus de détails sur les types d'espèces. Je ne sais pas si l'apron monte jusque-là.
Je ne crois pas, mais au-dessus,
je ne sais plus.
Peut-être les espèces principales qui seront visées, ça sera la truite fario et le chabot, qui ont des modes de vie différents, mais qui sont des espèces remarquables et indicatrices de bon état d'un milieu. Donc voilà, le chabot est un très mauvais nageur et vit sous des gros cailloux, et la truite est un peu une Formule 1 qui a quand même ses limites. Donc c'est un peu ce qui dirige la nature des ouvrages aussi. Quand on entend parler de passe à poisson, des choses comme ça, c'est des choses qui sont calculées en fonction de la façon dont les espèces qu'on veut voir passer fonctionnent et leur capacité physiologique à pouvoir franchir ces obstacles-là. Quoi. Après, des obstacles, il y en a naturellement. Donc nous, ce travail-là, je voudrais rappeler qu'il est fait dans le cadre d'une politique nationale et que les services de l'État suivent ça de très près et que l'ensemble des ouvrages qui sont choisis pour être soit aménagés, soit à moitié démantelés, soit complètement démantelés, c'est quelque chose qui est fait de manière très cadrée, d'un point de vue réglementaire. Au même titre que le sujet qu'on abordait juste avant sur les atterrissements. On a des financements pour cela, on a aussi des autorisations, et tout ça, c'est fait dans une politique globale. Il faut savoir aussi que quand on touche à un aménagement, on a un effet sur la morphologie du lit. Le cours d'eau rectifie sa pente et ça peut avoir des conséquences sur les berges. Donc pourquoi on a un bureau d'études ? C'est aussi pour se prémunir contre ces effets-là, prendre les devants et ne pas déstabiliser le mur d'une propriété ou un ouvrage quelconque.
Justement, ces études sont pratiquées sous quel aspect numérique, ou alors est-ce que vous pratiquez encore des reconstitutions dans des espaces pour suivre un écoulement et l'érosion qu'elle provoque sur les berges ?
Alors ça sera vraiment le travail des chercheurs. C'est des travaux sur lesquels nous, on s'appuie ensuite grâce à la littérature, en fait. Le bureau d'études qui nous accompagne, lui, a cette technicité, cette culture-là pour choisir telle ou telle option technique sur la base de travaux scientifiques. Mais c'est bien deux domaines différents, la recherche et l'application en réel de techniques pour à la fois sécuriser les berges, l'évolution du lit, mais aussi être sûr que on va faire quelque chose d'efficace, en fait.
Christelle Fermont, je voulais savoir quelle est la part des usagers et des utilisateurs de la rivière sur leurs réflexions ou leurs souhaits sur ce qu'est la rivière pour eux ou ce qu'elle peut leur apporter. Est-ce que sur le terrain, le SMRD pratique un peu l'écoute ?
Alors le SMRD, sur ces travaux-là, c'est vraiment au fur et à mesure des travaux qu'on essaye d'informer et de sensibiliser. Après, c'est plus en amont qu'on associe le citoyen dans ce qu'on appelle la commission locale de l'eau et la rédaction du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Donc là, on est en révision de ce document pour la deuxième fois et on a fait participer les citoyens de façon très intense de 2015 à 2018 à l'occasion d'un projet qui s'appelait le projet SPAR. Où on a vraiment on a fait plus de 60 événements avec les citoyens sur ces 3 ans. Et ensuite, on a enchaîné sur la révision du SAGE, où on a fait participer les citoyens pour l'étape de validation des nouveaux enjeux du SAGE. Donc ça aussi, c'était l'année dernière, courant 2019. Après, on essaye de garder une habitude plus d'information. Parce que voilà, ça demande des budgets aussi, toutes ces démarches participatives. Et on n'est pas très nombreux au syndicat. Donc ce qu'on essaye surtout de maintenir, c'est le contact. Donc on a créé un site Facebook pour pouvoir être un peu plus réactif sur les informations qu'on fait circuler.
On peut le préciser, son nom ?
Voilà, c'est SMRD Drôme. On a un site internet qu'on vient de refaire également pour être un peu plus réactif et au plus près. Et à chaque fois qu'on fait une intervention, on essaye de mobiliser les radios locales, les journaux locaux, pour essayer d'être au plus près du citoyen.
Nathalie Guénaud, vous êtes un petit peu auprès de la population, auprès des citoyens aussi. Quels seraient les projets de transition qui germeraient chez les citoyens ?
Ça, on le saura quand ils nous en font part. On va pas faire avant, on va faire avec. Donc je pense que sur l'eau, j'ai vraiment envie, puisque ce qui s'était passé en mars m'a beaucoup touchée de voir les réactions des gens. Mais en même temps, j'ai aimé la réactivité et le fait que le lendemain, Monsieur Bielakoff vienne directement et vienne expliquer aux gens. Et j'ai trouvé ça très important de pouvoir expliquer, de pouvoir faire entendre aux gens que pourquoi on le fait. Et la plupart des gens ont été très réceptifs. Et voilà, après, il y a toujours des réticences par rapport à la biodiversité, notamment sur les oiseaux, sur les nichages. Enfin, il y avait des questions pertinentes en plus, parce qu'à chaque fois, on apprend énormément. Et moi, ce que je souhaite, en fait, avec le SMRD, c'est ce qu'on s'est dit en mairie, justement, il y aura de la participation citoyenne, j'espère, c'est que ce travail se fasse au cours de toute l'année. C'est-à-dire que régulièrement, on puisse faire des réunions d'information. Il y a un vrai travail de partenariat, et aussi avec la Comcom, puisqu'il y a un représentant du CMRD à la Comcom. Enfin, voilà, que ce soit vraiment un travail à long terme, en fait. C'est pas juste là, on est sur deux événements qui sont déjà en cours, donc on va continuer. Mais je pense que vraiment, le fait de pouvoir informer, notamment sur les barrages, c'est une question qui revient tout le temps. On voit des barrages partout. On sait qu'il ne faut pas en faire. On dit, mais comment on fait? Comment on fait aux touristes? Comment on explique aux gens qu'est-ce que c'est l'implication avec des panneaux, avec de faire le tour des campings? Enfin, genre, voilà. Mais après, on choisira tout ça. Mais surtout de continuer à travailler et que les gens s'emparent de toutes ces explications qui peuvent être données, apprennent à connaître la rivière. Pourquoi il y a des normes européennes? Pourquoi il y a des normes nationales? Pourquoi on en arrive là aujourd'hui avec notre rivière? Et qu'est-ce qu'on peut, nous, en tant que citoyens, faire remonter? Et du coup, voilà, se servir des institutions qui sont là. Et notamment, je vais juste préciser, une des prochaines réunions, ce sera le 3 octobre sur un nettoyage de rive avec les citoyens. Et une intervention du SMRD sur la biodiversité et de venir expliquer aux gens et qu'on puisse toujours apprendre de nos techniciens et se servir d'eux. Voilà.
On est là pour ça. Merci.
Je ne sais pas qui répondra à cette question. La confluence de la rivière Méros avec la Drôme, cet aspect du pont rompu, ce chantier nécessaire pour le lit de la rivière, ce sont des problématiques qu'on retrouve assez souvent le long de la Drôme actuellement.
Oui, on a d'autres chantiers de continuité écologique de ce type-là, ce n'est pas forcément sur des confluences, ça peut être dans la Drôme elle-même. Hein. Il y a quelques années, on avait travaillé sur le pont des Bateliers à Mirabel et Blacon. Sur Die aussi, il y avait eu une intervention il y a quelques années aussi sur l'autre pont où il y a le passage à canoë. Donc on en a régulièrement. En fait, il faut intervenir sur tous les ouvrages qui posent souci pour la circulation des poissons. Donc nous, en tant qu'SMRD, on interviendra uniquement sur les ouvrages publics. Mais par contre, on mène des études aussi sur les ouvrages privés pour aider les privés à avancer sur cette thématique.
Par rapport au terrain privé, dont certains écoulements se déversent dans la Drôme, est-ce qu'il y a une meilleure réglementation sur ce sujet des eaux usées, en quelque sorte, qui tombent sur la rivière Drôme, ou alors il y a encore du travail ?
Il y a encore du travail. il y a énormément de travail, en fait. Et voilà, ça, c'est pareil, c'est un chantier qu'il faut continuer. Il faut vraiment faire des vérifications, et notamment en été, où je pense qu'il y a beaucoup de maisons secondaires qui sont ouvertes et que c'est moins surveillé. Il y a beaucoup plus de gens. La population, c'est quand même énormément amplifié pendant l'été. Donc, il faut trouver des solutions pour informer, faire respecter et arrêter de salir notre rivière. Mais je pense que c'est vraiment de l'information et des prises de conscience et de ce qu'on voit, de ce qu'on veut laisser, quoi, de ce qu'on... Mais c'est pas facile du tout, hein, parce que là, c'est en arrivant là depuis 2 mois, on voit bien l'ampleur et on se dit oulala, par quel bout, en fait. Voilà, donc chacun va faire des petits pas, et puis nous, il faut qu'on fasse aussi des petits pas de côté pour aller rencontrer les gens, pour que tout le monde puisse se mettre en construction de protéger cette rivière qui est un bien commun.
Pour la rivière Méros, peut-on expliquer pourquoi assez rapidement on retrouve de la vase par rapport à la rivière Drôme, qui est plutôt assez claire, avec un fond de galets?
On a peut-être de la vase, vous pensez à quel secteur?
par exemple au niveau du parking du Méros.
Donc comme le disait Christelle, c'est un cours d'eau qui est plutôt torrentiel avec de la pente, donc on pourrait s'attendre à avoir une évacuation des matériaux fins, effectivement. La vase, on va la retrouver dans des endroits où on a un frein à l'écoulement, alors soit à cause de
ces paliers, justement.
Alors, effectivement, parce que les barrages, ces paliers font des marches d'escalier, donc on a moins de pente, donc on a des dépôts qui s'organisent autrement. Après, on a la faiblesse des écoulements, donc la faiblesse des vitesses. Voilà, mais à mon sens, peut-être un colmatage des sédiments plus que des dépôts de vase caractériserait la Méros, parce qu'il faut quand même voir que la Méros, dans sa partie, même sa partie haute à Romeyer, est très 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 aménagée. Donc on a un cours d'eau qui a tendance à s'inciser, à pas pouvoir gratter à droite, à gauche, et qui est dans un espace très contraint. Depuis les Romains, peut-être, en tout cas depuis très longtemps. Donc il n'y a qu'à voir la traversée de Die, quoi. Voilà, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus là-dessus.
Puis je reviens à peut-être un aspect aussi, celle des piscines. Incidemment, j'ai entendu une personne me dire qu'elle était obligée de rajouter 400 litres d'eau par semaine à sa piscine due à l'évaporation. On peut multiplier par ça le nombre de piscines et les superficies aussi. Comment sont remplies justement les piscines à l'heure actuelle avec l'eau de quelle eau on parle?
Là, on parle sous. Enfin, ça va dépendre de l'accès à l'eau de chacun, en fait. Hein. Les gens vont utiliser l'eau qu'ils ont à leur disposition pour remplir leur piscine. En général, c'est un accès à la rivière, souvent. L'eau potable, peut-être. Je sais moins. Mais c'est souvent des accès avec des pompes. Donc. Aujourd'hui, normalement, tout prélèvement dans la rivière, comme on est en zone de répartition des eaux, hein, qu'on n'a pas assez d'eau l'été pour tous nos usages, normalement, tout prélèvement devrait être déclaré en mairie. Bon, on sait que c'est difficile pour les citoyens de faire ce type de déclaration, mais je pense que la plupart remplissent leur piscine en prenant l'eau dans les rivières. Nous, ce qu'on essaye de préconiser, c'est qu'au moins ces remplissages se fassent avant le 1er juin, parce que c'est là qu'on commence à avoir le plus de difficultés au niveau des milieux et que les rivières ont de moins en moins d'eau. Donc que les remplissages se fassent avant le 1er juin et si possible de ne pas vider les piscines l'hiver, de trouver des systèmes qui permettent de garder cette eau et de la renettoyer, de la réutiliser l'année suivante. Mais c'est vrai que les évaporations sont très intenses. Et on a un autre souci aussi qui peut survenir avec les piscines, c'est quand vous videz le système de vidage des piscines en fin de saison, vous avez une eau qui du coup est complètement transformée par l'usage de piscines, hein, aussi bien chimiquement que mécaniquement, parce que c'est une eau qui est toujours plus chaude. Quand vous redéversez ça dans les milieux, vous avez une perturbation de la rivière qui est vraiment importante. Donc les gens en général savent qu'ils ne peuvent pas les mettre dans les réseaux d'assainissement, hein, c'est interdit. Donc ils ne le font pas, mais le déversement en milieu n'est pas plus intéressant que ça.
Voilà. Il n'y a pas eu de développement du traitement de cette eau avant d'être de nouveau rejetée ou déversée?
Ben c'est trop de traitement, justement, qui est mauvais pour les milieux.
Mais justement, pour établir ne serait-ce qu'un aspect d'eau, sans les traitements, est-ce qu'il y a moyen de les filtrer, ces traitements? Non.
Ben, une fois que l'eau a été utilisée tout l'été, elle a vraiment changé chimiquement par rapport à l'eau de la rivière. C'est pas très bon pour les milieux.
Je reviens à la réunion donc, qui aura lieu jeudi 3 septembre à partir de 18h en deux parties. Donc 18h à 19h, il y aura les questions au public, faites par le public en salle. Donc vous
élus.
Présenterez les travaux, les enjeux, les aspects financiers, les procédures mises en œuvre.
Oui.
Toutes ces questions-là permettront de, j'espère, donner des réponses au public.
Oui. Il y aura une double réponse à la fois politique et technique, puisqu'il y aura un binôme élu technicien pour la mairie comme pour le SMRD.
Qui sera représentant de la mairie pour cette soirée, vous ne savez pas?
On sera plusieurs, je pense. On va venir à plusieurs parce que ça intéresse beaucoup de gens. On est très curieux. Donc je pense qu'on sera plusieurs élus.
Et puis la deuxième partie se passera donc en extérieur, hein, sur les endroits même
des
deux problématiques, hein, sur les deux sites. Et ça sera donc en deux groupes, hein, je crois.
Oui, les gens devront choisir entre le pont rompu ou la Méros. Pour une explication d'un côté donc avec Olivier Bielakoff sur le pont rompu et avec Fabrice Gonnet sur la continuité avec la Méros.
Tout à l'heure, vous parliez aussi des normes nationales, normes européennes. Est-ce qu'il existe des normes locales ?
Ben ça, c'est le SAGE, hein. C'est le schéma d'aménagement et de gestion des eaux que j'ai un tout petit peu évoqué tout à l'heure. C'est grâce à ce document qu'on adapte en quelque sorte les normes nationales à notre bassin versant, à nos usages, et que l'on arrive à pointer les objectifs qui touchent notre secteur et nos usages.
On peut parler de la rivière Drôme aussi, dans sa globalité. Comment se porte-t-elle et peut-on la comparer à d'autres rivières de la Drôme pour sa qualité ?
Ben, elle se porte globalement bien. C'est vrai que c'est une rivière qu'on soigne, hein, depuis le début de la prise de conscience sur ce territoire qui était dans les années 80 jusqu'à maintenant. Il y a eu quand même beaucoup de choses de faites par les communes, les communautés de communes et le syndicat de rivières. Donc on a une rivière qui globalement se porte bien avec des milieux qui sont plutôt en bon état. Et c'est toute la finesse de notre travail qui est d'aller toujours vers des milieux en meilleur état sans les dégrader, hein, et d'aller toujours vers un milieu en meilleur état, oui.
Monsieur Bielakoff, Olivier Bielakoff, votre fonction, vous l'avez acquise par l'expérience, je suppose, ou alors vous avez aussi une formation, dans quel domaine ?
Alors moi j'ai une formation un petit peu avortée à l'université, mais en géographie physique. Donc avec je trouve cette pertinence dans ce cursus-là. Quand je dis pertinence, c'est l'approche un peu transversale. C'est-à-dire que dans nos métiers, on n'est pas hydraulicien, hydrobiologiste ou sociologue ou historien ou économiste. Mais on doit faire se rencontrer ces disciplines, être capable de lire une étude précise sans être forcément capable de la réaliser soi-même, mais en tout cas d'avoir cette lecture un peu de territoire. Donc la géographie, pour ça, c'est quelque chose de très intéressant. Par la suite, j'ai fait d'autres choses. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais j'ai repris un petit peu le cours des choses et je suis venu à la rivière par une formation professionnelle du CFPF à Châteauneuf-du-Rhône, qui, je crois, n'a plus cours, peut-être sous forme de module, mais en tout cas, à l'époque, elle formait au métier de technicien en entretien de cours d'eau, donc à la fois faire des travaux en technique végétale, apprendre à connaître le milieu, avoir une vision aussi politique des territoires, être capable d'utiliser une tronçonneuse. Donc en fait, c'était quelque chose d'assez large, concret. Voilà. Et puis derrière, j'ai développé ça pour le parc naturel régional du Vercors pendant une grosse dizaine d'années, sur la rivière Bourne. Et puis j'ai souhaité travailler déjà sur ce territoire que j'aime beaucoup, et ensuite pour une structure qui est maître d'ouvrage, c'est-à-dire que de l'idée à la réalisation des travaux, la structure est légitime et pertinente pour intervenir. Voilà, ce qui change beaucoup de choses d'un point de vue professionnel.
C'est plus intéressant de traiter des rivières de montagne que des rivières de plaine, par exemple ?
Je ne pense pas. Non. Je pense qu'on est dans des contextes qui sont différents. En plaine, en général, on a un peu plus de pression d'habitat, de pression éventuellement agricole. On a, pour reparler des sédiments qui sont plus fins, des pentes qui sont plus douces. C'est juste différent. C'est juste différent, je pense. Mais c'est aussi intéressant dans les deux cas. De toute façon, l'eau, elle est partout. On en est fait à 80%. Finalement, ce qui est compliqué, c'est travailler sur la ressource en eau. Après, que ce soit en mer, en montagne, en plaine, en ville, à la campagne, on retrouve les mêmes sujets. En ça, la réglementation n'est pas si mal faite. Elle est même plutôt bien faite quand on lit les textes et quand on voit ce qui est mis en avant, soit dans la directive cadre européenne, soit dans la loi sur l'eau. Les questions qui se posent au niveau plus local avec le SAGE, mais ce qui est très difficile, c'est de voir le delta qu'il y a entre la volonté de faire quelque chose, de prendre en compte ces milieux, et la capacité qu'on a à faire bouger les lignes, à intervenir pour diverses raisons qu'on évoque aujourd'hui.
Eh bien, je vous remercie tous trois d'être venus, hein, Madame Christelle Fermont, Nathalie Guénaud et puis Olivier Bielakoff.
Merci.
Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci à vous. Merci
à vous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.
À très bientôt.
The bloody cop's a bloody king, bloody keep it bloody clean. Bloody chief's a bloody swine, bloody draws the bloody line. The bloody fun and bloody games, the bloody kids in bloody blame. Nowhere to be bloody found, anywhere in Chicken Town. The bloody scene is bloody sad, the bloody news is bloody bad. The bloody weed is bloody turf, the bloody speed is bloody surf. Bloody folks are bloody daft, don't make me bloody laugh. Bloody hurts to look around, everywhere in Chicken Town. Bloody train is bloody late, your bloody way, bloody lost and bloody found. Stuck in fucking Chicken Town. Train is bloody late, the bloody waiting, bloody wait, bloody lost and bloody found, stuck in fucking Chicken Town.